Donc, on reprend 1 Corinthiens 15. On était arrêté au verset 34. Alors, ce chapitre, effectivement, il y a beaucoup de doctrines concernant la résurrection. Et avant de développer les versets 35 à 49 ce matin, je vais redonner le plan de ce chapitre pour qu'on comprenne bien le déroulé de la pensée de Paul. Il y avait des problèmes de doctrine dans cette église et certains pensaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Voilà. Donc, le problème, c'est que l'édifice repose aussi en partie sur ce point de doctrine. Si on enlève des éléments, bah, le reste va s'écrouler. Donc il y avait un vrai problème. Donc Paul va prendre le temps de bien répondre à leurs questions point par point. Et comme Paul est un excellent pédagogue, il va rajouter en plus des enseignements, des points de question, des questionnements qui n'y avaient pas été posés, mais il va prendre aussi le temps de les enseigner dessus. Alors avant de regarder le texte, on va prier ensemble. Seigneur, c'est ta parole que nous ouvrons. Et comme l'a dit mon frère Léo, c'est la vérité aussi que nous annonçons des seigneurs. Parce que ta parole est la vérité, et parce que tu es vérité toi-même. Il n'y a pas en toi de mensonge, Seigneur, comme il n'y a pas de ténèbres non plus. Seigneur, tu es lumière, et tu nous as laissé à la fois la parole et la lumière à travers Jésus-Christ. Que Seigneur, tu en sois béni, et que tu nous éclaires encore en cet instant sur des points qui peuvent parfois sembler pour nous peut-être un peu obscurs ou un peu difficiles. Seigneur, parle-nous toi-même, que ta parole, Seigneur, nous enseigne et nous exhorte. Nous t'en prions dans le nom de Christ. Amen. Alors, on va, si tu veux bien, Samuel, montrer, on va projeter une image, c'est en fait la synthèse du chapitre 15, c'est le plan. On peut le découper, ce chapitre, en deux grandes parties. Voilà, une première partie, versets 1 à 34, on en était resté là. Et la deuxième partie qui va du verset 35 jusqu'au verset 58. Alors, la première partie, en fait, la première partie du chapitre 15, ça répond à une première question des Corinthiens qui apparaissent au verset 12. Comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Donc, il y avait un problème de doctrine, certaines personnes de cette église disaient « il n'y a pas de résurrection des morts ». Souvenez-vous que c'était l'église où tout le monde parlait en langue, où tout le monde prophétisait, où tout le monde faisait plein de miracles, etc. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et puis, l'autre jour, on avait vu aussi que certains ne connaissaient même pas le Seigneur. Donc, preuve du Saint-Esprit, ce n'est pas si vous parlez en langue. Ces gens parlaient en langue, certains ne connaissaient pas Dieu, et en plus, ils n'avaient pas compris la résurrection. Donc, ce n'est pas forcément une marque du Saint-Esprit de parler en langue. Mais ça, c'était pour un petit rappel de ce qu'on avait vu il y a quelques semaines. Donc, première partie, une première question à laquelle l'apôtre répond. Comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Alors, Paul donne quatre arguments qu'on avait vus au fil des précédents dimanches. Versets 1 à 11, c'est l'argument qu'on va appeler historique. Paul rappelait le fondement de l'évangile qu'il avait lui-même reçu. Versets 3 et 4, on avait lu. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli. Et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Donc un argument historique, parce que Paul dit la résurrection de Christ, c'est un événement historique, ça s'est passé. Voilà, c'est bien réel. Et pour le prouver, il avait donné les noms de certaines personnes. Vous vous rappelez, il avait dit d'abord, il est apparu à Céphas, Pierre, que les Corinthiens connaissaient, parce que Pierre était déjà venu prêcher dans cette église, on avait vu au tout début. Ensuite, c'était les douze. Ensuite, plus de 500 frères à la fois, dont certains sont toujours vivants à l'époque. Jacques, frère du Seigneur, on l'avait vu aussi. Tous les apôtres. Et enfin, Paul, comme le dernier, voilà, le dernier né, on va dire, né à terme. Donc les Corinthiens pouvaient donc librement aller voir certaines personnes qu'ils connaissaient ou les questionner pour vraiment leur demander l'authenticité de la résurrection du Seigneur. Ça, c'était le premier argument historique. Versets 1 à 11. Ensuite, Paul ajoute un deuxième argument, versets 12 à 19. C'est un argument plutôt logique, celui-ci. Si Christ n'est pas ressuscité, nous dit l'apôtre, alors tout l'évangile s'effondre, finalement. Pourquoi? Parce que notre prédication est vide, sans effet. Donc c'était celle de Paul, mais c'est aussi la nôtre ici. Hein. Notre foi est vide. Notre foi est même inutile. On ne sert à rien de croire si Christ n'est pas ressuscité, parce que s'il ne se passe rien après la mort, on perd notre temps, les amis. Hein. Ce matin, on peut faire la grâce matinée, ça ne sert à rien d'être là. Hein. On serait même des faux témoins vis-à-vis de Dieu, parce qu'on dirait des choses que Dieu n'a pas dites. On serait encore dans nos péchés, et ceux qui sont déjà morts en Christ seraient aussi perdus. Et ça veut dire aussi que le jour où on meurt en Christ, bon, il ne se passe rien de plus. Donc a priori, c'est une petite cause anodine. On met juste en doute la doctrine de la résurrection des morts. On pense que c'est sans conséquence. Non, ça a beaucoup de conséquences. La prédication ne sert plus à rien. La foi ne sert plus à rien. La vie avec le Seigneur sur terre, ça ne sert même plus à rien du tout de marcher dans la sanctification. Tout s'écroule. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Petit battement d'aile d'un papillon, vous connaissez cette histoire ? Petit battement d'aile de papillon au Brésil, mes amis brésiliens, qui peut provoquer une tornade au Texas. Voilà, c'est ça la théorie. C'est la raison pour laquelle Paul il insiste vraiment en disant la résurrection des morts, c'est un point fondamental de la doctrine. Alors il ne s'arrête pas là du coup, il développe un quatrième argument à partir des versets 20 jusqu'au verset 28. Et là c'est un argument qu'on va dire plutôt théologique. Il va rappeler que Christ est le premier-né d'entre les morts, c'est le premier ressuscité. Maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Christ est l'image de ceux qui vont ressusciter plus tard. On va y venir bientôt, dans deux dimanches, je pense. Donc là, Paul y montre l'exemple. Christ d'abord, ensuite les autres. À son retour déjà, puis ensuite les autres plus tard aussi. Il nous rappelait que la mort est venue par un homme, Adam. La mort est venue par un homme. Et que la résurrection est venue par un autre homme, Jésus-Christ. Donc le parallélisme entre Adam par qui vient la mort, Jésus par qui vient la vie et la résurrection. Et dans ce passage, Paul allait un petit peu plus loin encore, il leur parlait des temps de la fin, il leur parlait du retour du Seigneur, du royaume éternel, qu'entre Christ aura tout vaincu, que le dernier ennemi anéanti sera la mort, et que le Seigneur remettra au pied de son Père le royaume, toutes les autorités, et alors les morts en Christ ressusciteront à leur tour de la même manière que Christ est ressuscité. Voilà. Ça, on va y venir bientôt, c'est un peu complexe, mais on prendra du temps aussi pendant une prédication dessus. Argument théologique. Et puis le quatrième argument, c'est l'argument de l'expérience, on va dire, de Paul. Ben Paul, il explique son cas. Il dit, voilà, moi, j'ai... Voilà tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu les bêtes dans les arènes à Éphèse. Tous les jours, on est en danger de mort avec ceux qui prêchent l'évangile, etc. Paul explique que c'est l'espérance de cette résurrection aussi qui pousse certains à baptiser les morts. Vous vous rappelez, on avait vu ce point la semaine dernière, qui est une hérésie totale. Vous savez qu'il y a des gens qui baptisent les morts, hein, les mormons, on vous l'avait redit la semaine dernière. Si vous voulez connaître votre généalogie, allez sur le site des mormons. Si au moins il est utile à une chose, ce serait celle-ci. Ils font des tests ADN et ils prennent toutes les généalogies. Vous allez aux États-Unis, vous pouvez avoir des prélèvements ADN, ça s'appelle MyHeritage, je crois, mon héritage. Vous commandez pour $50, ils vous envoient une petite pipette, vous salivez un petit peu dedans, vous renvoyez, hop, et 15 jours après, vous avez vos origines à peu près en fonction des, disons, tellement de données sur l'ADN qui sont à peu près capables de vous dire d'où vous venez. Et j'ai entendu des personnes justement l'autre jour dans une émission qui disaient que c'était quand même assez fiable quand même. C'était pas trop mal, hein, c'était assez fiable. Bon, c'est pas une science exacte, mais parce qu'ils n'ont pas toute l'ADN, mais c'était quand même assez fiable. Ces tests-là sont complètement interdits en France, on n'a pas le droit encore de le faire. Ça viendra peut-être, en tout cas aux États-Unis c'est légal, les mormons le font, et ils recensent tout ce qu'ils peuvent pour baptiser le maximum de personnes. Est-ce que ce baptême-là est utile, les frères ? Ben non, évidemment. Il appartient aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est trop tard. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de seconde chance. C'est maintenant, ici, et après viendra le jugement. Il n'y a pas de zone tampon, sas de décompression avant de monter au paradis ou en enfer, où on a encore peut-être une chance de... Non, non. Hébreux 9, 27, il appartient aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, ce sera pas, vous n'aurez pas de seconde chance et personne ne se baptisera pour vous, ce sera sans efficacité. Donc, c'est ce que Paul avait dit et ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, lui-même disait, voilà, moi je suis chaque jour et avec les autres, on est exposé tous les jours au péril et à la mort. À quoi ça sert de se battre s'il n'y a pas de résurrection des morts ? Si à la fin, il n'y a rien du tout, waouh ! À quoi ça sert de risquer sa vie ? À ce moment-là, il vaudrait mieux être comme le philosophe Épicure. Vous connaissez Épicure ? Épicurien, où ça vous parle le mot ? Ça vient du philosophe Épicure. 4 siècles avant Paul. Okay. Bon, lui, en fait, ce qu'il disait, c'était rechercher le plaisir, éviter la douleur. Voilà. Les Épicuriens, c'est ceux qui se font plaisir, quoi. Voilà. Chercher le plaisir, éviter la douleur. Bah voilà, hein, on a tous envie un peu de ça finalement au fond de nous. Hein, c'est un petit peu. Bon, si je peux vivre une vie plutôt tranquille et puis avoir mal nulle part, ça m'ira très bien. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu pour les chrétiens? Non. Donner sa vie au Seigneur, c'est aussi accepter le sacrifice hein, d'une vie pour lui, avec la mise à l'écart social peut-être, les sacrifices peut-être parfois aussi. Ici, on n'est pas encore, interdit de prêcher l'Évangile, on n'est pas encore condamné parce qu'on va prêcher la parole de Dieu, on n'est pas encore persécuté, ça pourrait venir, on ne sait pas. Donc prions aussi que le Seigneur garde notre pays et qu'il garde les pays où il y a de la persécution. Pour l'instant, on peut le faire librement. Mais cette philosophie, cette doctrine d'Épicure, souvent, nous satisfait bien, quoi. Je recherche le plaisir, j'évite la douleur. Mais ce n'est pas du tout l'enseignement de la Bible. Est-ce que le Seigneur a recherché le plaisir et évité la douleur? Est-ce qu'il a recherché le plaisir? Non. Est-ce qu'il a fui la douleur? Non. C'est tout l'inverse. Donc, en tant que chrétien, si on doit suivre le Seigneur, Épicure, on doit le mettre gentiment aux oubliettes. Mais pourtant, à Corinthe, on sent qu'il y avait peut-être encore cette... c'était des Grecs, hein? Peut-être qu'ils avaient encore un petit peu tout ça dans leur culture, dans leur histoire. Plutôt cool, les Corinthiens. Hein. Plutôt cool. Hein. Débauche, les agapés, c'était tout le monde court pour manger le plus vite possible. Ça finissait en ivresse. On voit que c'était un peu... voilà. C'était, en termes de doctrine, c'était quand même très, très, très léger. Donc Paul, il va bien insister avec ce quatrième argument aussi de l'expérience. Il va dire, nous, on est en proie aux bêtes, à la mort tous les jours, et c'est le lot du chrétien, finalement. On s'est arrêté là la semaine dernière. Alors, on va regarder à présent, on va lire les versets 35 à 58. Donc là, vous avez compris, c'est la deuxième partie. La première partie, ça répondait à la question du verset 12. Est-ce que les morts ressuscitent? Et là, c'est, quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Donc voilà, maintenant, dans la deuxième partie du chapitre, Paul va répondre à cette double question. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Vas-y. Mais quelqu'un... voilà. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, des oiseaux ou des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Petite parenthèse de Paul, il dit, les amis, s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre, Adam donc, est terrestre. Le second homme vient du ciel, Jésus. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le... Alors, voilà, je vais m'arrêter là pour ce matin au 49, ce sera déjà pas mal, il y a pas mal de choses déjà, c'est déjà assez dense. On va reprendre le PowerPoint si tu veux, Samuel. Comme ça, on va regarder un petit peu. Voilà, donc dans cette première partie, versets 1 à 34, on avait réponse à la résurrection des morts. Est-ce qu'il y en a une ou pas? Et Paul donnait quatre arguments, historiques, logiques, théologiques, son expérience. On attaque la deuxième partie. Il va répondre à la question, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils à la vie? C'est une grande question, hein, une question importante. Donc premièrement, la partie que je viens de lire, il a expliqué la différence entre notre corps actuel et celui qu'on aura après la résurrection. Et la semaine prochaine, ce sera la deuxième partie, ce sera Paul expliquera la transformation de nos corps au retour du Seigneur. On n'a pas fini avec la résurrection. On va s'arrêter, nous, à cette première image, cette première partie, la 35 à 49. Alors, Paul va expliquer le corps qu'on aura à la résurrection et que ce corps est différent de celui qu'on a aujourd'hui, les amis. Paul, il va utiliser plusieurs images. D'abord, il va prendre l'exemple de la graine. La graine, on la plante en terre, et puis ensuite, il y a une plante qui sort. Alors, selon les graines, ça va être de l'herbe, une fleur, un arbre, une plante. Voilà, ça va être très différent. Les graines ne se ressemblent pas, et ce qui en sort après, ça ne ressemble pas non plus. Ça peut être parfois un peu différent. Nous sommes des graines. Est-ce qu'on se ressemble? Bon, pas trop, hein. Non, hein. Il y a des grands, des petits, des blonds, des cheveux foncés, des peaux claires, des peaux plus mates, etc. On ne se ressemble pas, les amis, pas tellement, hein. Dieu, il nous a coloriés avec une palette très très large, hein. Et là, peut-être notre orgueil va en prendre un coup, les amis. Parce que dans ce que dit Paul, il dit, la semence, la graine, c'est complètement insignifiant, hein. Ça ressemble à rien, hein. Ça n'a aucune beauté, hein. On va en prendre un coup, là. Parce qu'on passe des fois tellement d'heures devant le miroir à dire, j'ai un petit truc là, j'ai un poil sur l'oreille là, il faut que je le coupe, c'est pas joli. Ou alors il me reste un cheveu qui repousse, il faut vraiment que je l'enlève, sinon ça fait désordre. Bon, il y aura peut-être d'autres exemples que vous pourriez imaginer devant votre miroir, mais parfois on prend tellement de temps l'apparence. Et Paul dit, vous êtes une graine insignifiante. Voilà. Et il faut que cette graine, elle meure pour qu'ensuite il y ait quelque chose de beaucoup plus beau qui sorte. Un bulbe, vous savez, un bulbe de tulipe, par exemple, vous avez vu, c'est un bulbe, j'aurais dû en prendre un, j'ai pas pensé. Ça fait une sorte de patate, en fait, avec un germe, c'est pas très beau, hein, Marie-France, tu connais bien les plantes. C'est pas beau du tout, hein. Par contre, quand elle est mise en terre et que la fleur va pousser, c'est magnifique. Là, c'est l'image que prend Paul, c'est-à-dire, pour l'instant, vous êtes une sorte de bulbe, là, vous êtes une petite graine, vraiment insignifiante. Par contre, après, vous allez voir, il va y avoir quelque chose de magnifique. La chrysalide, vous connaissez, hein? Petit vert tout moche, une sorte de petit vert là, pas beau. Bon, des fois il est joli, des fois il y a des petits points. En général, c'est pas très beau. Ça rampe, c'est pas très beau. Par contre, après, ça devient quoi une chrysalide quand l'animal se transforme? Un papillon. Et là, on voit quelque chose de waouh, on dit là, magnifique, quoi, avec plein de petits détails, c'est super. C'est l'image donnée par Paul. Donc pour l'instant, on est insignifiant, les amis. Okay. Donc le premier point à bien comprendre de son argumentaire, c'est que le corps qu'on habite actuellement, il est bien imparfait. Ok, sert à rien de faire trop de chirurgie esthétique. On reste imparfait. Hein. Vous embêtez pas, c'est pas nécessaire. En revanche, après, lorsque le corps va ressusciter, alors là, on va voir toute la beauté de ce que Dieu va vraiment faire en nous. Versets 42 et 43. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite comment? Glorieux. Il est semé infirme, des fois on a mal, hein, on se dit purée, ça marche pas bien, Et bien pourtant le corps va ressusciter comment? Plein de force. C'est encourageant ça. Donc le corps actuel, il est comment? Il est corruptible. Et à la résurrection, il sera incorruptible. Corruptible, incorruptible, ce n'est pas la notion de ce que tu as dit Léo ce matin. Corruptible, ça ne veut pas dire, pour avoir un service, je vais donner quelque chose, on va s'arranger à l'amiable, n'est-ce pas? Non, corruptible, ça veut dire qu'il peut subir la corruption, c'est-à-dire la détérioration. Hein. Quand on dit Jésus-Christ n'a pas vu la corruption, son corps n'a pas vu la corruption, c'est-à-dire qu'il n'a pas pourri, quoi, il n'a pas moisi, il ne s'est pas dégradé. Donc notre corps actuel, évidemment, lui, en revanche, il est corruptible, et on sait, plus on avance en âge, on voit bien que, voilà, on commence un peu à sentir des fois certaines choses. Le corps actuel est corruptible, il ressuscitera incorruptible. Donc plus de maladies, plus d'infirmités, plus de petits bobos, plus de machins qui ne marchent plus. Le corps actuel, il est méprisable, il va ressusciter glorieux, les amis. Il est faible, et il va ressusciter comment? Plein de force, voilà. Deuxième point à bien comprendre, c'est que le corps que nous habiterons à la résurrection, il sera glorieux, les amis. Celui-ci, il est méprisable, imparfait, il subit la maladie, la dégradation, la détérioration, il va ressusciter, il sera glorieux comme le papillon ou la fleur. incorruptible, glorieux et plein de force. Vous manquez de force parfois, vous êtes fatigué parfois. Ce sera fini, les amis. Vous aurez la pêche tout le temps. Paul, il va ensuite différencier plusieurs types de corps. Alors, il va rentrer dans un truc, il va bien expliquer. Alors, Paul, c'est un super prof. J'aurais tellement aimé suivre des cours avec Paul, parce que des fois, on se dit, oh là là, il faut que je lise 10 fois, parce que là, j'ai pas tout compris. C'est vrai que Paul, des fois, c'est très dense. Prenez le temps de bien lire, de bien relire, de bien décortiquer. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Mais si on a une lecture rapide, c'est comme à l'école, hein. Si on écoute que d'une oreille, on va pas comprendre. Mais si on écoute des deux, en général, on peut saisir. Puis le Seigneur nous donne la sagesse si on lui demande, si on ne l'a pas. Alors, il va faire un parallèle entre deux types de corps. Verset suivant, 44. Notre corps donc est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Et là, d'ici, il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Hein. Corinthiens, comprenez bien ça, chrétiens de 2020 aussi. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Hein. Aujourd'hui, il y a deux types d'êtres. Il y a les êtres terrestres et les êtres célestes. D'accord ? Les êtres terrestres, c'est ceux qui vivent sur Terre. Donc, c'est les hommes, les animaux, quadrupèdes, oiseaux, tout ce qu'il a cité. Et il y a aussi les êtres célestes, c'est ceux qui vivent dans les cieux. Et donc, là, il y a les anges et les démons. Voilà. Il n'y a pas de hybride entre les deux et tout ça. Voilà, c'est terrestre ou céleste. D'accord ? Donc, c'est soit on est sur Terre, soit on est dans les cieux. Si on est sur Terre, c'est nous, les animaux. Dans les cieux, c'est les anges et les démons. Mais à la résurrection, on va changer d'état. Vu qu'on ne sera plus sur Terre, on va changer, du coup. On va faire comme la chrysalide, là. Versets 47 à 48. C'est les versets suivants. Le premier homme tiré de la Terre est terrestre. C'est nous aujourd'hui. Le second homme est du ciel. Ça, c'est Jésus. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Donc, voilà. Adam, la descendance d'Adam, bah c'est nous, on est terrestres. Et tel est le céleste, tel... Alors, j'ai une autre traduction, si tu veux regarder peut-être la seconde 21. Je crois qu'il met au pluriel. Ça me semble plus juste. Voilà. Tel est l'homme terrestre, et tels sont aussi les hommes terrestres, donc descendance d'Adam. Tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. À la résurrection. D'accord ? Donc, on ne va plus être terrestre parce qu'on ne sera plus sur Terre. On va changer d'état. Donc, premier point à bien comprendre, c'est que notre corps, il est méprisable, infirme. Le deuxième point, c'était qu'à la résurrection, on aura un corps glorieux. Et le troisième point, c'est qu'on aura un corps qui sera différent, il sera céleste. Donc, il aura des attributs qui ne seront plus tout à fait les mêmes. Voilà. On détaillera hein, une prochaine fois aussi. Je vais juste ouvrir un petit peu la parenthèse ici. Mais verset 49, on va regarder. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, on s'imagine dans le futur, hein. Nous avons porté l'image du terrestre sur Terre, et bien dans le futur, on portera aussi l'image du céleste. Nous serons à l'image du Christ ressuscité, les amis. Vous vous rendez compte ? On avait vu il y a 15 jours que tous les privilèges dont hériteront les enfants de Dieu qui vont rentrer dans le royaume céleste. Et ça, alors c'était tellement magnifique, on avait vu au moins 8 points, et il y en avait un, moi, qui m'avait personnellement mis à genoux, c'était... que le Seigneur va nous permettre de nous asseoir sur son trône pour régner avec lui. Quoi ? Jésus est mort, il a donné sa vie pour nous. Lui qui était parfait, comme tu l'as rappelé Léo, qui était juste, sans faute, sans péché, sans défaut. Il est venu mourir pour moi, pour mes péchés, et il a donné sa vie pour moi. C'est lui qui va avoir le droit de s'asseoir sur le trône de Dieu pour régner. Et en plus, si ce n'était pas suffisant, à la fin des temps, il va dire « Je te fais une place et viens avec moi pour... » Waouh ! Franchement, on mérite ça les amis ? Non, vraiment pas, quoi. Donc, merci Seigneur, hein, vraiment, on ne mérite pas et je crois qu'on hésitera quand même longtemps avant de s'asseoir en disant « Seigneur, je ne peux pas, impossible. » Et pourtant, le Seigneur, hein, il le fera pour nous. Hein. Nous porterons aussi l'image du céleste, on aura le même corps, la même constitution que lui. Donc, la Bible ne donne pas forcément tous les détails, hein, les amis. Il faudra aussi, il y a une part de mystère, mais le Seigneur nous le dira dans les cieux et puis peut-être... Paul aussi nous expliquera, nous fera peut-être des cours quand on arrivera, il nous expliquera peut-être la suite de l'histoire, hein, ce sera magnifique. Donc ce nouveau corps céleste aura les caractéristiques suivantes. Incorruptible, glorieux, plein de force. Ça vous va ? Ouais ? Vous prenez ? Ouais ? Et en plus, il sera à l'image du corps de Christ. Si c'était pour achever de vous convaincre, là. Vous voulez ou pas ? Ouais ? Ouais, on a envie. Hein. Et j'aimerais vous poser une question, est-ce que vous aimez votre corps aujourd'hui ? Vous aimez bien votre corps ? Ouais, vous regardez le matin, vous levez, vous dites, bon, je m'en tire pas trop mal, à part le truc là, faut que j'essaie absolument de corriger un peu le machin. Le... Vous dites, bon, je m'en tire pas trop mal. Ok, vous avez été semé méprisable, donc ça c'est un petit coup pour notre amour propre. En tout cas, votre corps sera encore meilleur quand vous serez avec le Seigneur. Donc si aujourd'hui vous êtes plutôt content, bah merci Seigneur. Il, après tout, les psaumes disent, fais de moi une créature merveilleuse. Donc on peut aussi se dire, Seigneur, quel que soit mon état, tu as fait de moi une créature merveilleuse. Amen. Et bien votre corps, il sera encore plus beau, et encore plus glorieux et encore meilleur avec le Seigneur. Waouh. Est-ce que vous aimez votre corps aujourd'hui? La réponse peut-être c'est non. Non, je ne m'aime pas comme je suis. Je n'aime pas du tout. Je suis complexé, je n'aime pas. J'aimerais être différent, plus comme ci, moins comme ça, un peu plus machin, j'aime pas. Bah rassurez-vous les amis, vous êtes qu'une graine. Voilà, c'est temporaire. Après la chrysalide, il y a le papillon, d'accord? Ce sera encore bien plus beau quand vous serez avec le Seigneur, d'accord? Si aujourd'hui ça va pas, demain ça ira très bien, d'accord? Faut juste être un peu patient, voilà. Mais la question c'est de savoir quand même, est-ce que vous appartenez au Seigneur? Mais on va y venir après. Je vais soulever un autre petit point, parce que là, on a beaucoup parlé de mort. Donc, Paul disait comment les morts ressuscitent, avec quel corps ils reviennent à la vie. Donc, on a vu un peu tous ces détails et on a envie, hein. Quand on a des petits bobos, quand on est un peu malade, quand on s'est fait opérer, on est très heureux de voir Irène ce matin. Voilà, en tout cas, c'est des moments difficiles, parfois, c'est douloureux, mais on sait qu'ensuite, on aura un corps glorieux, donc on sera libéré de tout ça. Mais entre-temps, il y a la mort, les amis. Il y aura peut-être pour certains, il y aura la mort, il y aura ce seuil à passer. Il y aura aussi le retour du Seigneur qui va prendre ceux qui lui appartiennent et qui va les enlever. C'est ce qu'on attend, l'enlèvement de l'Église. Mais il y en a qui sont déjà morts dans le Seigneur. Et si le Seigneur tarde encore un petit peu trop, il faudra passer par là, par cette étape de mort. Donc, parfois, certains se posent la question, un chrétien peut-il se faire incinérer? Voilà. C'est-à-dire, comment on doit se faire enterrer en tant que chrétien? Est-ce qu'on doit se faire enterrer, incinéré ou autre? Il y a des nouvelles techniques, après, pour j'ai préparé un peu évidemment, je regardais un petit peu, il y a des nouvelles techniques en Corée. En fait, c'est en Corée, alors je sais plus c'est quoi le procédé, j'ai pas porté trop attention, mais le principe c'est qu'ils vous congèlent très fort, je crois, et au bout d'un moment vous êtes un petit peu comme de la glace, ça se brise et ça fait quelque chose qui serait beaucoup plus dégradable et plus écologique. Voilà, bon. C'est arrivé loin de chez nous. Peut-être un jour, ça arrivera plus proche de nous. Un petit détail, petite parenthèse idiote aussi, mais pas inintéressante sur le fond. Les gens qui disent attention quand vous vous faites incinérer, parce que avec des fois les résidus dentaires, le plomb et tout ça, ça contamine beaucoup. Quand on le brûle, ça fait du CO2, etc., des gaz un peu machin. D'un autre côté, si on les met en terre, ça part dans les nappes phréatiques. Je suis pas sûr que ce soit meilleur. Hein. Enfin bon, voilà. Alors, incinération ou pas? On va regarder. Quand on a une question... Qu'est-ce qu'on fait? La vérité, elle est où? Dans la parole de Dieu. Alors nous, si on cherche les réponses aux questions, on va les chercher. Ça va pas être sur Google, ça va être dans la parole de Dieu. Alors on va regarder dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on parle d'incinération ou enterrement? On va regarder ensuite dans le Nouveau Testament, puis on va regarder le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit après. Alors, l'Ancien Testament. Quel exemple on pourrait prendre? Si on parle de l'Ancien Testament, mort, enterrement, tout ça, vous pensez à quelqu'un ou pas? Alors Moïse, ça va être compliqué, pour une bonne raison. Laquelle? Parce que Dieu, dans sa grande sagesse, a fait en sorte qu'il a pris Moïse à part et il s'est occupé lui-même de Moïse. Mais par contre, on peut quand même prendre effectivement ce chapitre, parce qu'il y aura peut-être des petits enseignements pour nous, et je pense à un verset en particulier, Deutéronome 34. Verset 5 et 6. Mais c'est une bonne remarque, effectivement, d'avoir cité Moïse, parce qu'on va voir qu'il y a un petit détail. C'est tout à la fin de... Voilà, c'est la fin de ce qu'on appelle les cinq premiers écrits. Hein. Juste avant Josué, c'est la fin. Voilà, Deutéronome 34, verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab. Tiens, Moab, pour l'étude biblique, vous vous rappelez? Et puis les femmes, vous étudiez Ruth, la Moabite. Il a été enterré où, Moïse? Pays de Moab. Hein. Selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Dieu, dans sa grande sagesse, a fait en sorte qu'on ne sache pas où est enterré Moïse. Vous imaginez très bien pourquoi. Ce serait un immense lieu de pèlerinage. Et au lieu de regarder au Seigneur, on regarderait plutôt à Moïse. Moïse n'était rien sans le Seigneur, hein. Tout comme nous. Hein. Comme Jésus l'a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Hein. Si je ne suis pas là, s'il n'y a pas le tronc de la vigne, les branches ne sont pas de vigne, quoi. Donc, effectivement, c'est intéressant ce détail, tout à fait. Comment Dieu a pris soin du corps de Moïse? Qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a enterré, il l'a mis en terre. Donc, c'est un détail intéressant. J'avais pensé à un autre, c'était Abraham. On va regarder Abraham, Genèse 23, verset 1-9. Là, en revanche, on est bien dans les cinq premiers écrits, on est bien dans le Pentateuque, toujours. La vie de Sarah, Genèse 23, verset 1, la vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tosha, etc. » Donc là, comment Abraham va... Qu'est-ce qu'il va faire du corps de Sarah? Il va l'enterrer. Okay. Donc il acquiert cette sépulture. Elle servira ensuite pour lui aussi. Regardez Genèse 25, versets 7 à 10. Et pas seulement pour lui. Genèse 25, versets 7 à 10. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Donc il a été 50 ans veuf, 40 ans veuf, parce qu'il y avait 10 ans d'écart avec Sarah. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Hébron, fils de Tosha, etc. Donc ça va servir aussi à Isaac et Jacob. On pourrait le voir plus loin, mais je vais pas revenir dessus. Et ça, aujourd'hui, c'est toujours cet endroit se trouve toujours à Hébron. Hébron, c'est une ville hein, qui est à côté de Jérusalem, en territoire palestinien. C'est une très vieille ville, vous le voyez, hein, c'est une très très vieille ville. On ne peut pas visiter malheureusement le tombeau des patriarches, mais il y a. Ouais. Et on voit toujours qu'Hébron, effectivement, est une ville avec le tombeau des patriarches. On ne peut pas visiter, visiblement, c'est assez compliqué d'aller là-bas. Mais il y a toujours ce vieux monument qui ne date pas de cette époque. C'est un bâtiment plutôt qui a à peu près 1000 ans, c'est plutôt Moyen-Âge, etc. Mais on a des amis chrétiens qui ont pu visiter, ils se sont rendus sur place. Ils ont réussi à y aller. Marie-France aussi ?
Vous allez en 84.
D'accord. Tu as pu visiter le tombeau des patriarches ? À l'époque, peut-être, on pouvait encore. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens ? Qu'est-ce que tu retiens d'avoir vu ce tombeau ?
J'étais très émue.
C'est ce que nous avait dit alors Marie-France, pour ceux qui écouteront par internet n'ont peut-être pas entendu sa réponse. Marie-France, qui est une sœur de l'église, qui a eu l'occasion d'y aller en 84, disait qu'elle avait été très émue. Et je me rappelle que donc, ses amis ont dit « C'est incroyable, quelle émotion on ressent de dire « Mais quelle fidélité de Dieu !» quoi. Ils ont ressenti vraiment que le Seigneur était fidèle en voyant ses tombes, là, Abraham, etc. C'est très touchant, certainement. Ouais. Peut-être un jour, on ira tous, les amis, faire un petit voyage, hein. Peut-être. Alors... Tombeau des patriarches. Donc ce qu'on voit, c'est que, alors avec Moïse, avec Abraham, avec Isaac et Jacob, on était plutôt sur un principe d'enterrement. Hein, enterrement. Il y a très peu de cas d'incinération, j'en ai trouvé un, il y en aurait peut-être d'autres, hein. Faudrait bien sonder les Écritures. C'est dans 1 Samuel 31, versets 11 à 13, c'est à la mort du roi Saül. Regardez avec moi, 1 Samuel 31, versets 11 à 13. Donc, le roi Saül est mort. Et le lendemain, les troupes qui ont remporté la victoire vont aller sur le champ de bataille. Ils vont trouver Saül avec ses enfants. Ils vont couper la tête du roi. Ils vont prendre tout le monde et ils vont les empaler sur les fondations de la ville et tout. C'était des barbares, hein. Croyez pas qu'on était au pays, dans un pays de paix et d'amour. Hein. Lorsque les habitants de Jabès, en Galade, apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent. Et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès, où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamaris à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. Alors ici, on a une incinération. Ils prennent les corps et ils les brûlent. Mais après, ils enterrent les os quand même. On voit qu'il y a une petite subtilité après. Alors certains pensent qu'en fait, ils les ont brûlés pour en fait une sorte de purification des corps, parce qu'ils avaient été profanés, etc. Donc certains l'interprètent comme ça. Je ne sais pas, je ne suis pas du tout un spécialiste des cultures de l'époque. Donc en tout cas, il y a au moins ce cas où le corps est brûlé. Il y en a peut-être d'autres, mais je n'ai pas vu. Ça, c'est l'Ancien Testament. Donc on enterrait plutôt les morts, même quand ils avaient été incinérés. Ce qui restait, on les enterrait. Bon, on va regarder le Nouveau Testament. Est-ce que vous avez un épisode en tête ? Lazare, qui va être mis, voilà, que le Seigneur va ressusciter. On va regarder dans Jean 11, verset 38. Donc les disciples, on vient trouver Jésus, on lui dit, voilà, ton Lazare est mort, etc. Donc il dit aux disciples, notre ami Lazare s'est endormi, je vais le réveiller. Et puis les apôtres, ils disent, mais il était malade, s'il s'est endormi, c'est bon, il va guérir, il va se réveiller. Et puis Jésus leur explique en disant, non, Lazare est mort. Donc il avait employé une figure du style en disant, il dort, mais en fait, il va bien préciser, il est mort. Et on va voir ce verset, donc Jean 11, 38, donc... Jésus va arriver sur place, sa sœur se met à pleurer, Jésus va pleurer, vous savez que c'est le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Et puis ensuite on voit Jésus qui va s'approcher du tombeau, et Jean 11, 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Donc ce qu'on appelle tombeau ou sépulcre dans l'Ancien Testament, en général c'était une grotte, voilà, où on mettait les cadavres. C'était le cas d'ailleurs pour Abraham aussi, hein. Donc, dans le Nouveau Testament, si on regarde, c'était plutôt la culture, c'était encore de mettre dans une grotte ou en terre. On ne brûlait pas, a priori, les corps. Ok, on a vu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Je ne prends pas d'autres exemples dans le Nouveau Testament, mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. On va regarder qu'a dit Jésus. Il faut toujours regarder au Seigneur Jésus-Christ. Qu'a dit, qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur a parlé du type de la manière dont on devait... prendre soin des corps après la mort. Est-ce qu'il a enseigné là-dessus ? Non. Il n'a pas donné d'indication précise, il n'a pas dit « attention, il faut enterrer les morts » ou « attention à ne pas incinérer » ou « attention, il faut incinérer ». Il n'a absolument rien dit. Donc déjà, c'est une première indication pour nous. Si le Seigneur n'en a pas parlé, ça laisse peut-être une certaine marge de manœuvre. Jésus, comment il a été enterré, lui ? Dans un tombeau. Bon, d'accord, ok, très bien. Mais surtout, ce qui est important de voir ici, c'est on voit que dans la Bible, c'est plutôt des enterrements ou dans une grotte, plutôt qu'incinéré, même si on a vu qu'il y avait un cas. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on en tire une leçon définitive ? Est-ce que Jésus a donné un enseignement particulier là-dessus ? Non. Je pense que la clé se trouve plutôt au début et à la fin de la Bible, notamment avec le premier, tout début de la Genèse, ce que va dire Dieu à Adam. Regardez Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. On va regarder le tout début de la Bible, les premières paroles de Dieu aux hommes, hein, et puis ce qui se passe à la fin aussi. C'est les dernières paroles écrites dans la Bible, et ça nous donne aussi certainement des explications, ou du moins des voies, pour essayer de répondre à ce sujet, incinération ou pas. Donc c'est après la chute, donc le Seigneur va convoquer l'homme, la femme, le serpent, il va les prendre un par un, il va donner à chacun en fonction de la gravité, et de l'ordre du péché, il va les prendre un par un, il va leur donner des reproches et des imprécations. Et Genèse 3, 17, Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. » C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et là c'est important, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors, dans ces cas-là, on se dit, pour être à peu près, pour bien être sûr de bien saisir, on regarde le terme original, hein, dans l'hébreu, et le terme c'est afar. Afar, ça veut dire poussière, mais ça veut dire aussi cendre. D'accord ? Ça veut dire les deux. Ça veut dire aussi bien, ça peut être aussi bien la poussière de la terre que la cendre. Vous savez, la poussière, quand on a brûlé quelque chose. Et le corps qui est incinéré, qu'est-ce qu'il devient à la fin ? De la poussière, il ne redevient rien d'autre, quoi. C'est la même chose, hein. Donc ici, on a peut-être un élément de réponse. Et on va regarder dans l'Apocalypse, du coup on fait un grand saut de puce et on va tout à la fin de la Bible. Chapitre 20, c'est la fin des temps, on a le début des temps. On voit certaines paroles de Dieu qui nous éclairent. Et puis ensuite, on va tout à la fin dans Apocalypse 20, verset 4. On voit là le principe de résurrection. C'est la fin des temps, je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça, on va y venir bientôt parce que c'est des passages compliqués. On va essayer de les éclaircir prochainement. Mais qu'est-ce qu'on voit ? C'est que ceux qui vont revenir à la vie pour régner avec Christ pendant 1000 ans, donc c'est des morts en Christ là, sont les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. C'est pas marqué, et ceux qui n'avaient pas été brûlés. Hein. C'est tous les morts. Hein. Il n'y a pas de caractéristique en fonction d'enterrement ou d'incinération, c'est bien ceux qui sont morts en Christ.
D'accord.
Est-ce que les chrétiens incinérés seraient exclus de la liste ici ? Non. Ok. Et on va regarder un petit peu plus loin, versets 11 à 13, dans le même chapitre. Là, c'est un événement qui se passe encore plus lointain, qui sera encore plus lointain, c'est la résurrection de... Ben voilà, vraiment le grand jugement final, Apocalypse 20, 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenait devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les hommes furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Qu'est-ce qu'on voit là ? C'est le grand jugement final, et il y a les morts qui se présentent devant le Seigneur. Et il y a qui ? Il y a ceux qui sont morts en mer, qui sont morts noyés. Et puis ensuite, il y a la mort et le séjour des morts qui rendirent les morts qui étaient en eux. On se pose parfois la question de se dire, est-ce que si on se fait incinérer, est-ce que le corps ressuscitera ? Est-ce que vous croyez que celui qui est mort il y a 2000 ans sur un galion qui est mort en mer, son corps depuis 2000 ans ou 1000 ans qu'il est dans l'eau de mer avec les poissons qu'il y a autour, est-ce que vous croyez qu'il est dans un meilleur état que celui qui s'est fait incinérer ? Mais cela n'empêche pas d'apparaître à la résurrection pour le jugement. D'accord ? Et ici, on voit que c'est tous ceux qui se trouvaient dans le séjour des morts qui vont comparaître devant Dieu. Et là, il n'y a pas de notion de... Ce serait un peu facile sinon. Imaginez si on raisonne par l'absurde. Des fois, en mathématiques, on raisonne par l'absurde. Comme on ne peut pas prouver que 1 plus 1 égale 2, on va prouver que 1 plus 1 ne peut pas faire 3. D'accord ? Ça s'appelle le raisonnement par l'absurde. Imaginez si ceux qui s'étaient fait, par exemple, incinérer ne pouvaient pas comparaître au jugement dernier. C'est-à-dire qu'un chrétien qui a été mis à mort d'une certaine façon, on connaît dans l'histoire de France aussi, hein, était-elle chrétienne, Jeanne d'Arc, je ne sais pas, parce qu'elle est incinérée. Imaginons qu'elle était authentiquement chrétienne. Elle est incinérée. Elle ne peut pas ressusciter ? Elle a perdu le droit de rentrer dans le royaume de Dieu ? Vous imaginez ? Le plus grand pécheur ici se dit, moi je pêche toute ma vie, je suis un criminel, et je me demande l'incinération comme ça. Pas de jugement final. Ce sera un peu facile, hein ? Non. Là, c'est tous ceux qui sont dans... Alors, c'est les morts, ceux qui sont dans le séjour des morts, même les noyés qui étaient dans la mer. Alors, vous vous rendez compte ? Il y a ce petit détail-là. Quelle est la différence entre la mer et le séjour des morts ? Bon, c'est pareil, c'est juste pour nous dire que ça va être tout le monde aussi, hein. C'est bien pour nous dire ça. Donc, les personnes incinérées n'échappent pas au jugement. Et si les chrétiens, ils ressusciteront de la même façon qu'ils aient été enterrés ou incinérés, ça ne changera rien pour eux. Effectivement, ce passage nous parle aussi d'incinération, quelque part. Verset suivant. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Verset d'après. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Verset 16. C'est bon, on a fini. Verset. Ceux qui ne sont pas, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. Ah, ils vont être incinérés pour de bon, là. Là, ils vont être incinérés pour de bon. Mais là, ce ne sera pas pour que le corps disparaisse. Ce sera un jugement éternel, les amis. Un jugement éternel où les personnes seront dans les temps de feu. Donc la question la plus importante, ce n'est pas est-ce que je dois me faire enterrer ou incinérer ? Est-ce que je peux faire l'un ou l'autre ? Ce n'est pas la question essentielle. La question essentielle, ce n'est pas non plus comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quels corps reviennent-ils ? Qui était la question d'origine des Corinthiens. La vraie question, c'est bien est-ce que j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ ? Est-ce que mon nom est bien dans le livre de la vie ? Parce que si mon nom n'y est pas, ah oui, je vais être incinéré après. Mais le problème, c'est que il n'y a pas la mort dans cet étang de feu. Là, c'est la souffrance éternelle. Donc, la vraie question, c'est avez-vous fait la paix avec Dieu ? Avez-vous fait la paix avec Jésus-Christ ? Avez-vous bien donné votre cœur au Seigneur ? Êtes-vous bien réconcilié avec Dieu ? Pour être sûr de ne pas terminer dans les flammes. Voilà la vraie question, en fait. Alors, je vais résumer juste pour conclure. On a vu ce matin les quatre arguments utilisés par Paul dans la première partie de sa lettre où il répondait à la question de la résurrection. Arguments historiques, logiques, théologiques et d'expérience. Dans la deuxième partie, merci, du chapitre 5, merci pour la projection, il répondait à la deuxième question, comment les morts ressuscitent-ils, avec quel corps reviennent à la vie? Et nous, on a vu la différence entre notre corps actuel, méprisable, mais qui va ressusciter glorieux à l'image du corps du Seigneur, et qu'on n'habitera plus alors dans un corps terrestre, mais dans un corps céleste, les amis. Et puis on a vu aussi qu'on pouvait être enterré, incinéré, pas de conséquences, d'accord? Simplement que la question importante, c'est de savoir est-ce que notre nom est bien inscrit dans le livre de la vie pour être sûr de ne pas finir dans les flammes lors de la résurrection. Alors on n'en a pas fini, les amis, avec ce chapitre 15. On n'aura aucune l'occasion d'aller un petit peu plus loin sur la mort, la résurrection. Vous allez voir qu'il y a des détails qu'on n'a pas encore vus. En tout cas, je ne veux pas vous laisser partir sans vous laisser l'opportunité de bien réfléchir à ça. On va prendre une petite minute pour faire silence. Et puis on va méditer dans notre cœur pour savoir où on en est avec le Seigneur. Et je conclurai après par la prière. Seigneur, merci parce que tu nous donnes tellement d'explications dans ta parole, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu secret, tu n'es pas un Dieu qui cache. Tu es un Dieu qui explique, qui prend du temps. Tu avais bien enseigné Adam et Ève dès le départ, tu leur avais déjà donné juste les consignes dont ils avaient besoin. C'était suffisant pour eux, Seigneur. Mais ils ont voulu désobéir et la mort est entrée dans le monde. Nous en vivons les conséquences aujourd'hui, mais si nous avions été à leur place, nous sommes conscients que nous aurions fait la même chose. Et Seigneur, la mort est à présent dans le monde, inévitable. Elle sera évitée pourtant pour une génération qui verra ton retour et qui sera enlevée et transformée à ce moment-là. Mais pour le moment, beaucoup sont partis avec toi et certainement d'autres partiront encore, si tu tardes. Seigneur, en attendant ton retour, nous te remercions parce que tu nous as laissé ta parole. Qui nous explique aussi quelle sera notre condition. Si ici nous sommes méprisables, notre corps sera glorieux et à l'image de ton Fils. Seigneur, tu as déjà fait tant pour nous et tu nous donnes encore ça. Merci Seigneur. Nous ne voulons pas que quelqu'un reparte ce matin de cette salle ou quelqu'un écoute ce message par internet et éteigne la connexion sans t'avoir reçu dans son cœur. Il y a un étang de flammes plus tard. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 9, 27 que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après vient le jugement. Il n'y aura pas d'autre possibilité. C'est ici et maintenant qu'il faut faire la paix avec toi. Je veux prier que personne ne reparte d'ici ou éteigne ce message sans avoir fait la paix avec toi. Très simplement, il faut dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis méprisable, au Seigneur aussi, au fond de moi-même. Mon âme est méprisable, parce qu'elle a péché contre toi. Mais je reconnais que tu es mort sur la croix il y a 2000 ans. C'est toi, Dieu toi-même, incarné en Jésus-Christ, qui meurt sur la croix pour mes péchés à ma place. Seigneur, tu l'as fait pour moi, pour me donner la vie éternelle avec toi. Je ne veux pas refuser ce cadeau, je veux l'attraper, le saisir, et ne plus le lâcher, Seigneur, parce que je veux vivre avec toi. Seigneur, celui qui fait cette prière, tu as dit qu'il recevait le salut et qu'ensuite rien ne pourrait le séparer de toi. Seigneur, nous le croyons parce que tu l'as dit et que tu es vérité. Seigneur, si quelqu'un veut faire cette prière ce matin, je lui demandais de lever la main discrètement, on priera pour lui s'il le veut. Si vous souhaitez faire cette prière, levez la main, on priera pour vous. Et si vous êtes sur Internet, il y a un formulaire de contact que vous pouvez remplir et on priera pour vous aussi. Et Seigneur, tu connais les cœurs. Tu sais qui a fait ce chemin déjà avec toi, Seigneur. En tout cas, travaille encore, que ta parole, Seigneur, ne soit pas juste ce message du dimanche matin. Non, Seigneur, que cette parole reste dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos souvenirs toujours, Seigneur, pour que nous n'oublions pas ce que tu as fait pour nous, que nous nous en rappelions dans les moments difficiles aussi, et que nous la partagions à d'autres. C'est notre prière en Jésus-Christ. Amen. Amen.